Stupid Ledge 90.1 FM de la bande FM à la bande organisée. De la bande organisée à la bande FM. Bonsoir, vous êtes bien sur Potlatch et on démarre avec le programme de la semaine. Jeudi se tient une grande manifestation contre la loi travail. C'est sûr qu'il y aura un pré-rendez-vous pour un cortège jeune, unitaire et dynamique. Toutes les infos sont évidemment sur Facebook, Coordination Jeune et Bordeaux se lève. Ce même jeudi, à 18h, il y a une conférence au musée d'Aquitaine au sein des séminaires d'actualité du LAM intitulée « Police, violence et maintien de l'ordre » avec comme intervenant Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré tuée par la police. Elle est membre du comité Justice et Vérité pour Adama, et Jérémy Gauthier, sociologue et chercheur à l'EHESS. En attendant, il fait 25 degrés en plein mois d'octobre à Bordeaux, c'est à n'y plus rien comprendre. Ici à Potlatch, on sue et on s'abandonne à la chaleur. C'est au Brésil que nous partons ensemble ce soir.
Le Brésil, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est le plus grand pays d'Amérique latine. Nous allons revenir sur les événements qui s'y passent ces dernières années. En 2002, le peuple brésilien élit le PT, Parti des Travailleurs, et à sa tête, Lula, ancien syndicaliste et ouvrier métallurgiste. Il concentre alors tout l'espoir des classes populaires et des minorités, indiens, noirs, mouvement des sans-terre. Après deux mandats, il laisse sa place en 2011 à sa chef de cabinet, Dilma Rousseff, ancienne guerriera durant la dictature militaire. Malgré la popularité de Lula, l'arrivée de la crise, les scandales de corruption entachant le PT et la montée d'une contestation exprimée dans la rue par des manifestations monstres, la présidente Dilma est destituée en 2016. Elle est remplacée par Michel Temer, également impliqué dans des affaires de corruption. Libéral et conservateur, très lié aux États-Unis et aux lobbies de l'agroalimentaire qui sont favorables au ravage de la forêt amazonienne. Si je vous raconte tout ça, c'est pour contextualiser l'entretien qui va suivre avec João. Comment un mouvement d'ampleur contre la hausse des tarifs de bus, ensuite un mouvement contre la Coupe du Monde dans le pays du foot, s'est transformé en un mouvement de la classe moyenne qui va aboutir à la situation actuelle. Destituer un président de la République, c'est sûrement un rêve de tout révolutionnaire. Mais sûrement pas pour que l'espace laissé vide soit repris par les idées libérales et réactionnaires. C'est de cette actualité-là et de ces problématiques-ci que nous allons parler en suivant.
Segunda-feira. A manifestação, que começou pacífica, acabou em violência. 5 policiais militares ficaram feridos durante confronto com um grupo de manifestantes em frente à Assembleia Legislativa. Um carro oficial da Alerj foi incendiado. Agências bancárias foram depredadas. Este grupo jogou pedras contra policiais que revidaram com bombas de efeito moral. Segundo a Polícia Militar, atos de vandalismo foram registrados em vários pontos do centro. O prédio do Paço Imperial foi pichado pelos manifestantes. Os protestos começaram na quinta-feira da semana passada, em São Paulo, quando a Polícia Militar tentou impedir manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus na Avenida Paulista. O movimento ganhou força e se espalhou pelas principais cidades do país. O motivo das manifestações...
Bonjour, João. Tu viens de Recife, au Brésil. Comme tu étais présent et que tu as participé ces dernières années aux mobilisations qui ont marqué le Brésil, on voulait discuter un peu avec toi pour que tu nous présentes la situation, nous narres ce qu'il s'est passé et nous expliques les tenants et aboutissants. On a décidé de commencer un peu une courte chronologie des événements passés qui débutent en 2013. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais. Bon, pour parler un peu sur les événements 2013, moi je vais quand même essayer de me rappeler un peu ce qui se passait un peu avant, parce que ces mouvements-là, 2013, c'est un peu parti partout au Brésil. ça a été bien lié aux événements qui sont passés à São Paulo, notamment vu les mouvements contre l'augmentation de billets de bus et métro. Et en fait, ces mouvements-là, ils existent au Brésil depuis au moins 10 années. Il y a eu des mouvements à Salvador, à Florianópolis et à São Paulo. Toujours, on essaie, chaque année, on avait des nouvelles augmentations. Et chaque fois, on sentait d'une façon différente comment ça touchait la ville et tous les gens qui habitaient. Et on sentait toujours la force de ces mouvements-là. Comment c'était un peu différent des mouvements qui se recommençaient dans chaque année à la fac ou au lycée, par exemple. Ça touchait plus la ville, les gens qui habitent, qui doivent aller et partir de la ville. Du coup, notamment à Recife, en 2005, il y a eu des grosses manifs contre l'augmentation des billets, des bus. Ça a été créé d'abord à Florianópolis, mais après ça a un peu diffusé dans plein de villes. C'était le mouvement Passe Libre. C'est un mouvement qui demande que ça soit gratuit, le transport public. Et du coup, ce mouvement-là, il a eu quand même un rôle assez important dans ce qui s'est passé en 2013 à São Paulo. Vu que c'était un peu à partir de ces réseaux-là qui sont faits tous les appels des manifs, même au niveau local et au niveau national. À São Paulo, au début de tous ces mouvements-là, ils ont appelé un peu la révolte des vinaigres. Parce que, en fait, dans les premières manifs, il y a une grosse répression policière. Parce que les gens, ils avaient des bouteilles de vinaigre pour se protéger de lacrymo. C'était un peu en début d'essai de construire une certaine autodéfense pour essayer de continuer dans la rue et pas chaque fois se faire expulser par les flics et pas pouvoir continuer la manif. Du coup, il y a eu une grosse arrestation de dizaines de gens parce qu'elles avaient du vinaigre. Et en plus, il y a eu pas mal de répressions policières. Du coup, cette année-là, 2013, à São Paulo, les manifs, ça était vraiment, il y avait plus de monde, plus de gens différents qui participaient. Et début juin, ils ont fait un appel national. C'était une des premières fois que ça a bien marché comme réponse à la répression policière. À Recife, par exemple, les dernières manifs contre l'augmentation du billet de bus, on avait au maximum 500 000 personnes dans la rue. Au 20 juin, c'était une grosse manif nationale, il y a eu un appel qui s'était sorti par les réseaux sociaux. Ça a commencé à partir de São Paulo, mais vu la taille du Brésil, la communication n'est pas très très forte entre les mouvements et tout ça. Et du coup, les réseaux sociaux, c'était des trucs le plus utilisés pendant ces mouvements-là. Et au 20 juin 2013, on avait 1 million de personnes dans la rue à Recife. Du coup, ça change beaucoup l'ambiance de la manif et comment ça va se passer dans la rue. Après cet appel-là national, le mouvement il a continué. Mais par contre, il a continué d'une manière plus diffuse. À Recife, par exemple, il n'y avait pas un objectif commun particulier contre quoi que ce soit pour la manif. C'était un peu toujours des appels faits sur Internet pour des manifs qui avaient plein des objectifs différents, mais il n'y avait pas une unité de demande ou des revendications ou même des stratégies.
Mais ça a été quand même une réponse à l'appel de São Paulo.
Ouais, au début c'était exact, une réponse à l'appel de São Paulo, de la répression policière qui s'est passée à São Paulo. Quand même, cette année-là, ils n'ont pas augmenté le billet à Recife, vu qu'avant d'augmenter, il y avait déjà des grosses mobilisations. Mais il y a d'autres villes que ça a un peu augmenté. Du coup, ça a créé quand même une ambiance un peu différente, un peu plus solide dans le niveau des revendications et d'objectifs du mouvement social. Le truc qui ça a bien changé, c'est qu'on avait l'habitude des manifs dans la rue bien traditionnel, on dirait, genre tous les partis de gauche qui sont devant avec les grosses caisses avec les enceintes qui crient. C'était une ambiance que des militants, c'était pas un truc populaire et divers. C'était normalement, tu vois, des manifs un peu, les militants et tout. Et là, ça a changé, c'était plein du monde, chacun qui écrivait ses pancartes, ses banderoles et tout. Ça tournait beaucoup une idée de mouvement horizontal et qui s'organise sans les partis. Qui, au même temps, ça crée un truc intéressant, vu l'hégémonie des partis dans l'organisation des luttes et des mouvements sociaux. Mais en même temps, c'était un peu le truc qui a aidé à créer ces mouvements-là de la classe moyenne qui après ont réussi le virement de la présidente Dilma. C'était vraiment un moment assez particulier où plein du monde allait pour la première fois dans la rue faire des revendications. Il y a eu plein des acteurs qui ont été très importants dans ce processus. Et les médias, c'était un des acteurs assez importants. On a un gros monopole des médias depuis des années et des années. Du coup, ils ont bien profité pour faire une espèce de détournement de mouvement. C'était même à la limite de dire le trajet de la manif, donner le lieu de rendez-vous, où ça va finir. Et vu qu'il y avait plein de monde qui n'avait pas du tout l'habitude d'être dans la rue, ça marchait beaucoup.
Du coup, les médias se montraient favorables au mouvement, à une certaine tendance du mouvement, quoi. Le truc citoyen, contre Dilma.
Exact. Et du coup, ça a bien joué dans ce truc. On n'aime pas les partis, on est des citoyens et on est contre la corruption. Ça, c'était un peu les mots d'ordre qui, après, ça a créé des mouvements qui ont été plus forts plutôt à São Paulo, au sud-est, contre la présidente Dilma. Au nord-est, c'est quand même un cas particulier parce que c'est une des parties du Brésil qui, le PT, le Parti des Travailleurs, là, a plus de force.
Oui, parce que peut-être faut rappeler que Lula vient du nord-est, qui est la région la plus pauvre.
Exact. Ouais, et à ce moment-là, c'était quand même la préparation pour la Coupe du Monde. Mmh. Du coup, c'était assez tendu.
C'était un an avant
la Coupe du Monde. Du coup, c'était quand même l'année que Dilma a approuvé la loi antiterroriste, par exemple, et plein d'autres trucs aussi.
Qui consiste ?
Au Brésil, la loi antiterroriste, moi, je vois beaucoup les mouvements sans terre, les mouvements paysans, aux cibles de la loi antiterroriste. Mmh. C'est pas du tout ça le discours, mais on analyse les pratiques qu'ils ont choisies comme des pratiques terroristes et tout. C'est quand même pas mal la stratégie des mouvements des paysans et tout. L'approbation de cette loi-là, elle était bien avancée à cause de la Coupe du Monde et ayant, je sais pas, une force qui venait de dehors pour dire « Allez, il faut... » C'est un des seuls pays là, en Amérique latine qui n'avait pas une loi antiterroriste. Et du coup, c'était un moment qu'ils ont un peu poussé cette demande-là et pour l'approuver le plus vite possible, en pensant par rapport à ces gros événements-là, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Bon, du coup, il y a ça que 2013, ça a créé quand même une nouvelle forme d'aller dans la rue, une reprise dans la rue. Au même temps, c'était un truc assez diffus aussi, qui ça a créé cette force politique-là qui a continué un peu dans la rue pour demander le virement de Lula en utilisant la revendication contre la corruption. Et du coup, ça, c'était un peu un mouvement qui s'était créé après aussi dans les réseaux sociaux et tout. Ils ont eu pas mal d'aides d'argent, de plein de trucs des politiciens liés déjà au parti contraire à Dilma. Il y avait aussi des envies politiques derrière tous ces mouvements-là. Mais du coup, c'était un mouvement un peu inspiré dans les panelas, c'est des trucs avec des casseroles et tout, un peu les stratégies des manifestations de classe moyenne, classe moyenne haute, dans les quartiers plus bourges, dans les villes, toujours avec le maillot du Brésil, le maillot de la Coupe du Monde. c'est une espèce d'échauffement pour la Coupe du Monde, on dirait des supporters du Brésil un peu. Du coup, ça nous a montré aussi une montée de conservateurs, de la droite. Le patriotisme assez fort, ils chantaient toujours l'hymne Brésil et tout.
Un refus des partis, une horizontalité du mouvement, ça a créé deux mouvances, une peut-être plus radicale qui était notamment contre la hausse du prix des transports, du billet de bus, etc., et contre les violences policières. et une qui appartient plus à la classe moyenne brésilienne, blanche, etc., qui en portant le maillot du Brésil, en chantant l'hymne, est beaucoup plus patriotique, conservatrice, et cherche à avoir une bonne image avec l'appui des médias, une bonne image même à l'international, etc. En gros, ça va se diviser un peu en... C'est ces deux mouvements qui se retrouvent, ou plutôt ces deux tendances qui se retrouvent dans la lutte.
Ouais, ça, ouais, elles sont notamment bien présentes. Et les médias, ils ont essayé de créer aussi ces scénarios un peu manichéistes de les deux mouvements différents. Du coup, ça, il y a eu des moments qui a eu des montées, des tensions assez difficiles, des manifs qui s'est rencontraient, des bagarres dans la rue, de plein des histoires de des conflits de ceux qui supportent le PT et ceux qui sont contre l'OPT. Mais après tous ces gros mouvements qui a eu lieu, on a senti une montée conservateur. Ouais, ça a créé une ambiance politique assez difficile d'y s'y mettre. Il fallait une espèce de choisir le côté où t'es contre ou t'es pour. Mais ces mouvements-là, plus conservateurs du Brésil et tout, son principal but, c'était la lutte contre la corruption. Ouais, la politique et corruption au Brésil, c'est un peu des synonymes. Et du coup, ça, ils ont un peu s'est mis à fond dans ces trucs-là. Et pour eux, c'était un peu virer le président. Ça allait résoudre le problème. Quand pas du tout, en fait, ça a ouvert un vide politique qui a laissé plus à l'aise toute la droite et les conservateurs. En ce moment, après ces coups d'État institutionnels qu'on appelle, on voit vraiment que les conservateurs, ils arrivent à bien approuver toutes ces lois, tous ces projets.
Il y a dans cette situation quelque chose qui me paraît à la fois compliqué et intéressant d'un point de vue révolutionnaire, et qu'on retrouve peut-être dans une plus grande mesure aujourd'hui au Venezuela, par exemple, c'est le fait de se retrouver dans la rue avec 1 million de personnes qui veut notamment destituer le président, etc., sans sentir qu'elle appartient à une dynamique ou à une force révolutionnaire, et plutôt peut-être à une force conservatrice. En off, tu nous avais parlé d'un texte écrit et distribué le lendemain de manif de 1 million de personnes, et est-ce que tu pourrais nous en parler et nous le situer?
Ouais. Cette manif-là, c'était assez différent pour nous. En ce moment-là, avec des amis, on avait un collectif des contre-informations qui, ça faisait au moins 3 ans qu'on suivait toute la manif qui se passait dans l'agglomération de Recife. En fait, on avait créé ces collectifs-là pour montrer qu'en fait, il se passait des trucs. Tout d'un coup, on a une manif avec 1 million de personnes. Mais par contre, dès qu'on est arrivé, on a vu que c'était une ambiance assez différente de ce qu'on avait déjà vécu. Le titre de texte là, qui s'était sorti le lendemain, c'était « Le pacifisme contre-révolutionnaire ». Parce que dans ces moments-là des luttes, il y a une grosse tension entre les radicaux et les pacifistes. Ça, c'était un peu partout au Brésil. Là, on a eu la présence des pacifistes assez plus forte. On voyait des gens qui faisaient des gros câlins aux flics, des gens qui donnaient des fleurs. Quand en fait, cette manif-là se passait parce qu'il y avait eu une grosse répression policière à São Paulo. Ça nous a choqués, quoi. C'était un peu... On n'attendait pas du tout cette ambiance dans une grosse manif de solidarité aux gens qui se sont fait taper à milliers de kilomètres de chez nous. C'est pas que ça, en fait. Ils ont essayé quand même plein de stratégies pacifistes différentes. Genre, des gens qui faisaient des tags dans une manif, par exemple, et tu vois tous les gens qui s'y baissent pour que les flics puissent voir qui est en train de taguer. C'était assez difficile parce qu'en plus, Recife, c'est une ville qui a un peu l'habitude de gérer la foule, vu que toutes les années, on a le carnaval, c'est vraiment une grosse fête populaire. Il y a des moments qu'il y a plus de 2 millions de personnes dans la rue. Du coup, quand on est arrivé au centre-ville, le centre-ville était tout préparé pour le carnaval. Genre, il y avait toutes les sorties bloquées par les flics, il y avait seul un trajet à faire, c'était le trajet qui était dit sur les médias officiels. Du coup, c'était un peu une ambiance waouh. Ils ont réussi à faire vraiment un spectacle, un théâtre un théâtre de manifs dans la rue. Et du coup, c'était ça, c'était, en fait, c'était un peu dégoûtant, quoi. C'était un peu... On s'attendait pas à cette ambiance-là, quoi. On a un peu discuté sur ces rapports-là. En vrai, à Fortaleza, c'est une ville à 800 km de Recife, ils ont eu vraiment une autre façon de prendre la rue, tu vois. Les gens qui vraiment étaient plus motivés à arriver dans les espaces politiques pour faire des revendications, qui s'arrêtaient pas parce que les flics disaient qu'ils pouvaient pas passer. Ils voyaient qu'ils étaient des milliers et des milliers, en fait des centaines de milliers. Et du coup, ils poussaient les flics, ils les faisaient reculer. Tu sens fort avec la foule, quoi, et pas quand tu te sens pris par la foule. Ça, c'était un peu cette sensation-là qui était partagée dans ces textes, parce qu'on a vu que cette choix-là pour une voie pacifiste dans ces moments-là, ça allait pas du tout à côté d'une envie révolutionnaire de vivre ces moments-là comme un possible moment de transformation et de créer des liens.
Tout à l'heure, tu avais parlé d'autodéfense populaire. Ça consiste en quoi ?
Bon, les années d'avant, on avait déjà accompagné pas mal ça avec les occupations de Saint-Ouen à São Paulo. Une choix des mouvements sociaux à ne pas se faire battre facilement par les flics, par exemple. Ça commence à tourner plus fort dans les mouvements sociaux, dans les collectifs. L'idée et l'importance de s'autodéfendre, de construire une résistance au niveau matériel aussi, c'est pas que aller dans la rue et dire allez on y reste, non, mais pour rester il faut quand même qu'il soit préparé. Vu que le rapport des forces il est toujours un peu déséquilibré pour les manifestants, du coup, en fait, c'était plutôt un appel à l'importance de s'organiser en vue de pouvoir au moins s'autodéfendre et pas se faire défoncer dans la rue, perdre des yeux et fin de...
Même ça me fait penser un peu quand il y a eu l'expulsion de la favelas là, des Pineirinhos,
ouais, c'est ça ? Ouais, j'ai pensé à ça, quoi.
Où du coup, ils avaient des boucliers, etc. Et que ça, c'était...
Ouais, c'était 2012.
C'était une des premières fois que ouais. Tu voyais ça, ce type de défense.
Ouais, ça a bien, ouais, c'était 2012, c'était une grosse expulsion d'une occupation aussi. Qui là, en assemblée, ils ont décidé de résister. Et du coup, ils ont construit des boucliers, ils ont fait des entraînements. Ils mettaient des casques à moto. Et là, tu as vu que c'était sanglant quand même l'expulsion. Il y a eu des morts. Mais tu voyais qu'il y avait une détermination. Et la police aussi, elle, c'était différent. Tu vois, c'est comment elle allait dans cette expulsion. Parce qu'ils étaient toujours habitués à arriver et taper à fond tout le monde et tous les virer. Et là, non, ils ont mis plus de temps. Ils ont dû essayer de négocier. C'est vrai que dans ces manifs-là, en 2013, ça se reprenait, les stratégies à Pinheirinhos de s'autodéfendre. Ça a bien pris dans plein de villes, tu voyais, genre plein de gens avec des boucliers, qui ramenaient des boucliers aux manifs et tout. Et c'était un peu la parution de phénomène Black Bloc au Brésil. C'était une espèce de choix, des stratégies. Parce qu'en fait, tous ces mouvements-là, 2013, c'était presque les organisations, les textes, tous les trucs, ça sortait presque que dans les réseaux sociaux. Ça a commencé notamment à São Paulo, Rio et Porto Alegre. Cette choix-là, vu la violence policière assez forte, du coup, les gens se sont dit non, mais il faut qu'on se défende, quoi. Il faut se défendre.
Quand le choix de Black Bloc, de la stratégie Black Bloc, est-ce que ça pouvait avoir un lien avec une répression ? Après les manifs, par exemple ?
Non, là, parce qu'en fait, là, cette stratégie-là, c'est pas forcément être tout en noir. C'est plutôt la choix de l'anonymat. Parfois, une t-shirt sur le visage et tout.
Ouais,
mais dans les villes plus froides, il y avait quand même un truc un peu d'identité Black Bloc, tout en noir et tout. Mais dans d'autres...
Tu dis ça à cause du climat.
À cause du climat, ouais, en fait. Okay. Parce que, ouais, c'est énorme, quoi. Mais dans d'autres villes, c'était plutôt le choix de l'anonymat, plein des masques. Même des masques de carnaval et cette importance-là, vu que là c'était un nouveau moment pour l'intelligence policière aussi, qui qui a commencé à pas mal utiliser des caméras, de faire une surveillance plus forte là.
Tu parles de la police, les renseignements?
Ouais, les renseignements. C'était un peu sur l'anonymat et l'autodéfense, c'était un peu cette stratégie qui a bougé. Aujourd'hui, chaque manif à São Paulo, à Porto Alegre, à Rio, t'as toujours un gros bloc, black bloc, qui fait vraiment un truc un peu autodéfense. Genre, il y a eu des histoires, genre des manifs de syndicats qui les flics tapent dessus. Il y a les black blocs qui font une chaîne humaine pour les protéger. Tu vois, c'est pas du tout un truc qui est pour l'action et casser. Tu vois, genre, il y avait aussi, il y avait y a plein de casses ensemble. Et de saccage, mais c'était un peu un truc, il faut qu'il y ait, au moins il y a des gens prêts à se défendre dans les manifs. Mais là, c'était un peu le sujet des médias pour la criminalisation du mouvement. C'était les Black Blocs, il y a eu plein de procès, des gens qui sont fait arrêter, des renseignements sur ça, des gens qui ont été surveillés à cause de cette stratégie-là.
Direto da sua de terra, o pesadelo tá de volta. Holocausto cotidiano que pela justiça trouxe a revolta. Direto dos arrebentos, narrando o sofrimento que o sistema arrancou a língua e injetou na veia veneno. O anti-herói, o anti-algoz, o porta-voz. O jogo é bruto e a resposta pode deixar com nós. O suor do trabalhador é a Ferrari do doutor. Na febre do ódio, o pivete se conformou. Olha aí os menorzinhos de furador.
Eu sou embrião com ódio, desastre da genética.
Sou periferia. Resposta da causa frenética da luta de terra. Do insurgente armado, preparado pra guerra. O mundo tá loucão, realidade a milhão. Os pivete fumava pedra, hoje almeja a revolução. É nós na missão, ideologia, prática e ação. O crime pelo prazer é só alienação. É armadilha pros irmãos. O sistema planta o ódio e ainda querem compaixão. Aqui terrorista de facção, Talibã. Capuz na cara e Mike na mão. De carro forte pra financiar a insurreição. De tanto tapa na cara, percebê-lo de briação. Carro novo, mamamão, cocaína estribado. Aproveitando as fitas do pano que foi passado. Pagando de patrão com ego maior que a ilusão. Enquanto eu tava na vibe, os pivete catava comida no lixão. É desde 85 uma tal democracia. É 12 horas por dia pra sustentar suas filhas.
E ainda invade o barraco, te mete o papo. Leva tapa na cara de pouco fardado. Filho da puta arrombado. Não acha nada, procedimento encerrado. Nenhum material encontrado. E tu, malandro, fica ligado.
Tá inteirado. Vocês que ficam inteirados, o povo tá revoltado. Quem era um escravo quebrou a corrente desse fardo.
Sou eu que ecoa nas ruas de barro.
Manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho.
Não é disputa política do próximo mandato que vai recortar os fatos. O gamba é arma de conciliação, público-privado.
Capital acumulado, salário parlamentar ainda é dos mais altos. Pago o seu salário, mas se me encontra na madruga, posso até virar finado. Vivemos como rato correndo atrás do queijo e do flautista mágico.
Querem me pedir de reagir? A mídia faz jantar aqui de força engolir. Isso não aqui, eu mastiguei cuspi na sua cara, boy, que quer me ver na UTI. Entubado, estraçalhado, com os peitos rasgados de bala da tentativa de assalto. Em frente sua loja de carro, morre um, nasce dois. E tô seguro o fardo.
Agora liga pros porco fardado que o jogo tá formado. É o holocausto.